Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Philo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission très spéciale sur le thème de la liberté. C'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés et nous nous sommes dit que c'est l'occasion idéale pour vous faire passer le temps et vous amuser pendant que vous révisez la philosophie tranquillement chez vous ou dans la voiture même. Nous voulions le partager avec vous, chers auditeurs et fans de Radio Philo. Nous aurions pu vous lire quelque chose d'ennuyant, mais au lieu de ça, nous avons décidé de demander à des inconnus, des gens de notre entourage ainsi que des passants dans la rue, ce qu'ils pensaient de la liberté et ce qu'elle signifiait pour eux. Ces personnes-là ont eu la gentillesse d'accepter d'y répondre et de donner leurs avis sur le sujet. Nous allons donc vous faire écouter des enregistrements tout de suite.
Tout de suite, vous allez pouvoir écouter la proviseure d'un lycée interviewée par Nora et Lucie.
Bon, alors déjà, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la liberté. Qu'est-ce que la liberté pour vous ?
La liberté, ben moi je repars d'une phrase toute simple, hein, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est-à-dire moi je me sens libre tant que je ne gêne pas les autres et je demande aux autres de faire la même chose. Mm-hmm. Voilà. C'est déjà ça ?
Oui. Et donc, la liberté, par exemple, dans l'école, est-ce que pour vous, c'est important ?
Oui, sinon je ne vous aurais pas mis un gros panneau d'expression libre.
Ah oui, c'est vrai.
Dans le cadre,
oui. Dans le cadre de la semaine culturelle.
Voilà, c'est moi qui ai souhaité qu'il y ait ça. Et j'ai passé mon dimanche soir à essayer de l'accrocher dans tous les sens. Voilà, parce que je trouvais important qu'on puisse s'exprimer à partir du moment où on est correct, on pose des choses. Bon, il y a des trucs rigolos, hein. Il y a de beaux dessins, mais après, je pense qu'il peut sortir des choses intéressantes du moment que, voilà, c'est fait dans le respect. Mm-hmm. Voilà. Après, la liberté, on a eu l'occasion d'en parler avant les vacances, hein, de ce qu'on pouvait accepter dans les établissements scolaires.
Oui.
Hein, ça fait le tour de France, je crois.
Oui, oui.
Je suis très connue maintenant.
Oui, en effet.
Voilà, donc, tant que ça ne gêne pas les autres, hein. Or, il se trouve qu'on a été confronté à un moment donné au comportement de quelqu'un qui a gêné quelqu'un. Donc, il a fallu qu'on regarde de près ce qui se passait. Mais à part ça, il avait la liberté de s'habiller, de se maquiller.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire ?
Du fait, alors de quoi ? L'histoire, le fait que ça ait choqué une jeune fille et que la maman ait appelé ou le fait que ce jeune...
Votre avis sur ce sujet Est-ce que, d'après vous, c'est normal que...
Qu'il se maquille ?
Oui.
Normal. S'il a envie de se maquiller, il se maquille. Ça ne gêne... Enfin, vraiment, depuis le début de l'année, ça ne gênait personne. Mmh. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas plus que tous ceux qui ont des cheveux de toutes les couleurs. C'est amusant.
Oui.
Enfin, quand même, franchement, ici, si on s'arrête à un garçon qui se fait les yeux... Mmh. Voilà.
Et donc,
je pense qu'on est quand même. Je pense qu'il y a un esprit de tolérance ici.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et peut-être plus parler en ces termes-là.
Mais du coup, est-ce que vous pensez, là actuellement, dans la situation actuelle du lycée, qu'il faudrait restreindre les libertés ou vous trouvez que c'est parfait peut-être ou est-ce qu'il faudra restreindre
Il y a toujours des choses à améliorer parce que après, il faut voir qu'on est tous une communauté. Qu'il faut que tout le monde y trouve sa place et que peut-être qu'il va y avoir quand même encore des gens choqués par certaines choses. Donc notre base, c'est le règlement intérieur. Il faut essayer de mettre dans le règlement intérieur quelque chose qui va être respecté par tout le monde. C'est pas moi qui le pond, ce règlement intérieur. Hein. Il peut arriver que l'on ait des idées quand on veut le changer, mais ça passe par des commissions, on le présente aux enseignants, on le présente au CVL, on le fait valider en conseil d'administration et on en rediscute. Et à partir de là, si on le valide, c'est qu'on est tous d'accord pour l'appliquer. Voilà. Après, il peut y avoir des choses qui me paraissent pas tout à fait parfaites, mais je suis pas la seule, quoi. Je suis garante de quelque chose. Je suis garante aussi du fait qu'on respecte chacun. Mais je peux avoir aussi, moi, des propositions à faire.
Comme quoi, par exemple ?
Ça m'a interpellée cette histoire-là, puisqu'on m'a posé des questions sur qu'est-ce qu'on entendait par tenue décente. C'est vrai que je crois que dans le règlement intérieur, on met tenue décente.
Oui. Il n'y a pas d'explication.
Mais on ne va pas s'amuser à dire.
Oui.
On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais c'est vrai qu'on se permet de dire à un élève qui n'est pas dans une tenue de travail, qui n'est pas propice au travail, on va dire ça comme ça. On ne vient pas, ce que je dis. basiquement, on ne vient pas en tenue de plage
oui.
au lycée au mois de juin. Quoi. On ne vient pas avec des tongs, un grand décolleté, un short trop court, une tenue de sport avec voilà, des grands débardeurs pour les garçons. Voilà, on fait une réflexion. Enfin, il est arrivé, je sais, de faire des réflexions. Une fois, une élève qui avait tout un haut en tant que tel, on voyait que ça. On lui a dit simplement tout ça. Ça n'a pas causé de problème. Le lendemain, mm-hmm. elle est arrivée habillée autrement. Mm-hmm. Voilà. Bon, mais on ne va pas écrire en détail.
Oui.
C'est pas possible. Mm. On s'enfermerait, savoir, on s'enfermerait dans quelque chose et après, il y a quelqu'un qui le lirait. Mais moi, je peux faire ça, peut-être.
Oui, parce qu'il y a des règles comme ça dans les lycées privés et tout. Enfin, c'est très strict.
Oui. Oui, tout à fait.
Bon, ça va.
Ici, oui.
Il me semble qu'on essaie de respecter la personnalité
de chacun,
tout en les conservant quand même, en faisant attention qu'ils ne débordent pas, qu'ils restent bien dans ce que l'on a, dans nos cadres que l'on a. Voilà, c'est important. Ça sécurise un cadre, ça rassure d'avoir un cadre.
Son point de vue de l'art à travers la philosophie. Pouvons-nous commencer cette radio libre avec vous, Héloïse ? Apprenez-nous sur l'histoire de l'art engagé.
Oui, bien sûr, mais tout d'abord, j'aimerais commencer par qu'est-ce que l'art ? L'art est un reflet de la réalité, mais c'est aussi synonyme de transformation. Que ce soit dans le travail de retranscription de la réalité ou dans celui de transfiguration, l'art engagé est dit engagé si l'artiste prend conscience des conséquences que leurs travaux peuvent avoir sur la société. Sartre popularise la notion d'engagement. Pour lui, la littérature engagée se concentre sur la condition humaine. L'art engagé, pour le philosophe, doit témoigner et historiciser les événements de son temps. Mais l'art engagé n'a pas pour fin l'art. C'est un moyen d'exprimer des idées sociopolitiques, socio-économiques ou socio-culturelles à travers des œuvres démocratisées. L'art peut être associé à la politique. En effet, on parle d'art de persuader, de conquérir. De ce fait, l'art peut être un instrument de propagande en s'appuyant sur les images et l'efficacité du graphisme. Cependant, il y a un nouveau rôle politique de l'art qui est opposé à la propagande, qui perturbe les normes et conventions imposées par la société. Premièrement, l'art est mis au service des régimes commanditaires, comme à l'époque du Roi Soleil, qui demandait des portraits qui glorifiaient sa figure autoritaire. Il représente des personnages sombres et amaigris, à la façon des dessinateurs anarchistes qui dénoncent la bourgeoisie. Il y a aussi une autre époque qui illustre l'art engagé, c'est la période de la Première Guerre mondiale, avec le mouvement des Dada et futuristes, qui luttent contre le bourrage de crâne. En 1917, avec la révolution russe et l'expansion du communisme, la France suit le mouvement du surréalisme, pour une libération totale de l'esprit. Leur objectif est de sortir l'art des musées. On parle aussi de révolution surréaliste, qui s'inspire des travaux de Freud, notamment sur les rêves étant un moyen d'émancipation pour découvrir la réalité en chaque individu. Mais les artistes gardent quand même les pieds sur terre, car ils ont une implication politique, antimilitariste, antifasciste, en gros, tout ce qui a servi l'esprit humain. Durant les dictatures, la liberté des artistes est limitée et leur créativité aussi par la censure, les emprisonnements ou encore des exils. Nous pouvons voir un nouveau mouvement artistique qui est le street art ou l'art urbain qui regroupe toutes les formes d'art réalisées dans les lieux publics à la vue de tous. Ce support qu'est la rue permet aux artistes, la plupart engagés, de faire voir leurs œuvres et faire passer leurs idées, même à ceux qui décident de fermer les yeux. Mais le street art est très controversé. Il est au cœur d'une réflexion sur ce qu'est l'art, ou plutôt ce qu'il doit être. En effet, l'art urbain est célèbre pour transgresser les règles, et l'artiste prend des risques en pratiquant cet art. Encore une fois, l'art engagé, assimilé à la politique, est source de censure, puisque le gouvernement est conscient de la force de l'art. En outre, le street art est souvent pris comme une dégradation interdite par la loi. Prenons l'exemple du plus célèbre des graffeurs à l'identité cachée, Banksy. L'art de Banksy est toujours porteur d'un message humoristique ou politique, souvent les deux. Il sillonne le monde pour pratiquer son art de façon libre, sur des endroits les plus marquants, ou simplement dans les rues piétonnes. Une œuvre très connue et très engagée qu'il a fait sont les 9 fresques sur le grand mur séparant Israël des territoires palestiniens, donc un territoire de conflit, où il a notamment dessiné des ballons qui apparaissent beaucoup dans ses œuvres. Il dit que c'est pour emporter les gens vers la liberté. Cet art est critiqué, notamment par l'ancien maire de New York, M. Bloomberg, qui dit que le graffiti abîme la propriété d'autrui et est un signe de décadence et de perte de contrôle, en ajoutant que ce n'est pas de l'art et que ce ne devrait pas être autorisé. Mais de nombreux critiques d'art valorisent cet art en disant que le rôle de l'art est de nous faire sortir le nez de l'ordre établi. Je vais maintenant donner la parole à ma partenaire Alexandra, spécialisée dans le cinéma.
Le 7e art n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des hommes au 20e siècle, et ce n'est pas seulement pour des causes politiques. Les raisons sont multiples. Un art nouveau choque par ses images réalistes, une société pudique et religieuse, et une vision de simple divertissement assimilée à de l'abrutissement, pousse certains historiens, écrivains et philosophes à rejeter et critiquer cette nouveauté. Les défenseurs du théâtre appuient cette vision. Le cinéma peut être considéré comme un art engagé, comme tout art, puisqu'il a renversé les codes de son temps et libéré les corps. La nudité était un sujet tabou, voire interdit, mais le cinéma vulgarise le corps et le sexe. Le premier film dit « pornographique » de Kiss en 1896, premier baiser au cinéma entre deux hommes. Certains demandent l'appel de la police, ou Queen Kelly, en 1928. Une pensionnaire de couvent devient la maîtresse d'un officier débauché. Cependant, des films classés X sont dorénavant réglementés. Le gouvernement n'est pas le seul à exercer une censure sur les films. Les associations catholiques ont fait de même en surveillant les films où Dieu était représenté. Toutefois, comme dans la peinture, certains films ont été utilisés comme un instrument de propagande auprès de régimes totalitaires. C'est pourquoi beaucoup de films résultant de vérités qui dérangent ont été censurés. Parmi eux, « Le chagrin et la pitié », un film documentaire de Marcel Ophuls, en 1969, fut interdit de télévision pendant 10 ans, puisqu'il détruisait le mythe résistentialiste. Les documentaires et films sur les horreurs de la guerre ont également posé problème. Tout d'abord parce qu'ils dénoncent la barbarie et pourraient faire perdre espoir au niveau du front, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Mais le film documentaire sur les guerres est l'un des sujets les plus ambigus qui soit, puisqu'il y a d'un côté la volonté de dénoncer et commémorer, et de l'autre la crainte de remuer le couteau dans la plaie des communautés oppressées, comme ce fut le cas pour les déportés juifs durant la Shoah.
Super, merci beaucoup à vous deux pour nous avoir éclairés sur ce sujet. Du coup, d'un autre côté, nous avons Madame Fasiki qui va donc nous expliquer ses œuvres. Donc, pour vous, l'art doit-il être engagé ?
Alors bonjour, je m'appelle Zainab Fasiki, je suis marocaine. Je me suis engagée dans l'art pour dénoncer le harcèlement sexuel et les tabous qu'il y a sur le corps de la femme dans les sociétés marocaines. Mon art est souvent qualifié de féministe et je trouve que c'est légitime en vue de mon vécu, étant donné que je suis la fille unique d'une fratrie de 5 garçons. Donc ça a été dur pour moi de m'affirmer en tant que femme et m'affirmer en tant que personne indépendante. L'œuvre qui m'a fait connaître, c'était Arshuma. J'ai choisi ce titre parce que Arshuma, c'est ce qu'on dit aux jeunes quand ils engagent un débat sur un sujet tabou au Maroc. Et je trouvais donc que pour ma BD et aussi mon site, parce que j'ai décidé aussi de publier mes œuvres sur un site, étant donné que les femmes marocaines n'ont pas accès tout le temps à la culture, elles n'ont pas le droit finalement d'y avoir accès. Je pense qu'un site, c'était plus intime comme plateforme, parce que aller à une expo féministe quand on est une femme au Maroc, c'est dur. Et donc j'ai décidé de me servir de l'art digital, qui est ma spécialité, pour donner une voix aux femmes marocaines qui ne sont pas entendues. C'est après avoir vu une femme se faire attoucher dans un bus au Maroc que j'ai décidé de mener ce projet, et après avoir moi aussi été victime d'une tentative de viol. Alors vous m'avez demandé si l'art se doit d'être engagé. Eh bien, alors tout d'abord, l'art est ancré dans un temps et dans une société. C'est seulement dans ce contexte de création qu'elle a du sens. Donc l'art comme témoin d'une réalité est une nécessité. On a tendance à penser que la politique est dans l'art est au détriment de l'esthétique. Or, l'esthétique, donc le fait de faire ressentir par la beauté, est essentiel à l'art. Pour atteindre ses objectifs, l'artiste engagé se doit de toucher et de toucher la sensibilité du spectateur, l'émouvoir et l'indigner. Donc, en art, la politique est dépendante de l'esthétique, finalement. Donc oui, pour moi, le pouvoir de l'art doit être mis au service de la politique. Il doit renseigner le peuple sur sa condition. Parce que souvent, les sociétés dans lesquelles nous vivons sont abusives et elles s'appuient souvent sur l'ignorance du peuple pour exercer leur pouvoir. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu d'Archuma. Le peuple ne parle pas et l'ignorance continue de régner. Donc nos voix restent inentendues. Et c'est en se cultivant justement qu'on devient puissant. Vous me direz peut-être que c'est pas le rôle de l'art et que nous pourrions compter sur le système éducatif pour véhiculer les principes égalitaires. Sauf qu'eux aussi transmettent les inégalités. Les parents, les écoles, ils sont tous parasités par le formatage social. Alors il ne reste plus que l'art. Et par l'émotion, on offre justement une visibilité à des messages qui sont très importants. De plus, l'art est un des rares éléments qui assure la conservation et la mémoire. Et la raison et la mémoire sont les deux conditions du progrès. Et puis toutes les œuvres d'art sont engagées à leur manière. Certaines se trouvent ouvertement engagées en faveur ou contre une cause, quand d'autres n'en donnent pas l'impression et semblent viser uniquement la beauté de la forme. C'était ce qu'au XIXe siècle on appelait l'art pour l'art, donc c'est-à-dire l'art qui n'a pour fin que lui-même, l'art qui ne doit servir que lui-même. Mais il ne faut pas oublier que c'était aussi l'art pour l'art qui était utilisé comme art officiel. Et c'était un slogan qui était particulièrement soutenu par les bourgeois, donc ceux qui regardaient la misère sans la vivre, et puis les États, qu'ils soient démocratiques, mais surtout les États totalitaires. Donc l'art officiel, c'est-à-dire l'ensemble des créations artistiques qui sont reconnues et soutenues et mises en avant par les systèmes politiques et religieux, était souvent favorisé au détriment des autres formes d'art qui étaient marginalisées ou même interdites des fois. Par exemple, en France, sous le Second Empire, l'impressionnisme était délaissé parce que les peintres impressionnistes étaient les premiers à représenter des personnes humbles. Par exemple, Renoir, en 1873, dans Les Moissonneuses, c'était le premier à représenter le prolétariat urbain, surtout après les soulèvements populaires de 1848. Que les dirigeants avaient tout intérêt à faire oublier. Donc l'art peut être une forme d'intégrisme, mais peut aussi sauver le peuple et lui permettre d'avoir l'outil fondamental pour former une opinion, c'est-à-dire la connaissance. Alors son engagement est pour moi très important.
Eh bien, merci à vous, Madame Fassiki. D'ailleurs, on peut retrouver vos œuvres en librairie, mais aussi sur votre site web Zainab Fassiki. Enfin, maintenant, on va entendre Monsieur Rousseau qui a bien envie de parler.
Donc l'art peut être une forme d'intégrisme, mais peut aussi sauver le peuple en lui permettant d'avoir l'outil fondamental pour former une opinion, c'est-à-dire la connaissance. Alors pour moi, son engagement est très important.
Eh bien merci, Madame Fassiki. D'ailleurs, vos œuvres sont disponibles en librairie, mais aussi sur votre site web Zainab Fassiki. Alors maintenant, on va écouter Monsieur Rousseau qui a bien envie de parler.
Merci bien. Alors, en vous écoutant toutes, je me suis posé une question en rapport avec l'art à travers la liberté. L'homme peut-il être libre alors qu'il a besoin de normes ? Alors, je vais vous répondre avec mon point de vue, bien sûr. Chaque artiste a ses propres normes d'harmonie. J'entends par harmonie un accord entre les différentes parties qui produit une impression de beauté. Par exemple, les critères du beau ne sont pas les mêmes chez Beethoven et dans le hard rock. Les normes d'harmonie propres à un artiste, c'est ce qu'on appelle son style. Il y a un style propre à chaque œuvre, un style propre à chaque école d'artiste et un même style propre à chaque civilisation. Par exemple, dans la peinture chinoise, il y a une façon particulière de dessiner les vagues. Ces normes sont nécessaires, mais cela ne supprime pas la liberté. Ces normes ont été créées par l'homme. Donc, il y a la liberté au sens de créativité, comme chez le philosophe Bergson. Et chacun peut toujours créer d'autres normes. Donc, il y a liberté au sens de définir soi-même ses propres normes. J'entends par là l'autonomie, comme dans la liberté morale. La liberté humaine n'est pas l'absence de normes, c'est la capacité à se donner des normes. Mais il y a toujours une certaine hétéronomie, l'artiste est conditionné par ses fantasmes inconscients et par les attentes du public. Mais en nous incitant à créer de nouvelles formes de beauté, l'art nous entraîne à la négativité de l'imagination consciente, par laquelle nous pouvons toujours nous donner de nouveaux choix et donc exercer notre libre arbitre. c'est la liberté au sens de Sartre. De plus, chez l'artiste, cette liberté ne va contre ses désirs et impulsions spontanées. En effet, par l'imagination artistique, il peut exprimer ses impulsions. Donc l'art laisse s'exprimer en partie ce que j'appelle la liberté naturelle. Enfin, l'artiste utilise aussi la liberté d'expression. C'est un droit, un exemple de liberté civile. Mais ce n'est pas spécifique à l'art.
Nous sommes bien d'accord avec vous, Monsieur Rousseau, mais qu'avez-vous à nous dire sur l'art engagé ? Pour vous, l'art engagé est-il une liberté ou est-ce juste une simple forme d'art ?
Alors, selon moi, l'art engagé est un signe de liberté parce qu'à travers cela, les artistes défendent leurs idées, expriment entre autres leurs pensées. Donc, l'art engagé promeut une certaine liberté d'expression qui est fondamentale pour l'homme.
D'accord. Et nous avons d'ailleurs une prof d'art qui réagit à tous vos propos en ce moment sur Twitter avec le hashtag Descartes et des lettres. Elle nous dit « L'art a comme seule fin l'art, il n'est pas un moyen, il ne peut donc pas être engagé. » Qu'avez-vous à nous répondre ?
Je ne suis absolument pas d'accord avec cette personne. Prenons un exemple d'un enfant de 6 ans voulant faire plaisir à ses parents. Donc il va généralement dessiner une famille, ses parents et lui, ce qui est donc représentatif de son amour. Donc à travers cet exemple, on peut dire qu'en effet, l'art peut être engagé.
Cette émission est donc maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram avec le hashtag Descartes et des lettres. Merci à vous pour votre présence et avoir répondu à toutes nos questions.
Radio Philo, c'est tellement rigolo!
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous partons de la question « Sommes-nous prêts, nous, hommes modernes du XXIe siècle, d'atteindre cette lumière nommée liberté aux dépens du confort familier que représente l'ignorance ?» C'est donc à travers un huis clos, non sans repos pour Inès, personnage principal de cette fiction radiophonique, que nous allons, ensemble, poser la question de la liberté. La lumière aperçue à la sortie de la caverne platonicienne ne serait pas la condition même de notre liberté. Sur cette question, les différents philosophes contemporains ont chacun leur position. Qui donc Inès écoutera ? Sophia, la représentante de la philosophie de Socrate ? Pyrrha, la pyrrhonienne ? Régine, la stoïcienne ? Si Inès souhaite connaître la vérité, la liberté, c'est plutôt Électre, à la philosophie existentialiste, ou bien Émile, représentant des idées de Rousseau, qu'elle devra écouter et croire. La liberté d'Inès commencera-t-elle là où se finira son ignorance ? Ou peut-être choisira-t-elle le confort de cette ignorance ? Entre les deux, trois étages, des rencontres, un duel des consciences. Au bout de cette caverne moderne, peut-être la lumière.
Inès ? Inès ?
Lâche-moi.
Mais bouge un peu de ce foutu canapé. On ne voit plus, tu sors plus, tu fais rien de ta vie à part mater cette putain de télé.
Et alors, c'est mon problème, non ? Je suis bien là, j'emmerde personne, je regarde mes petites séries, j'ai pas besoin de sortir.
Non mais, ça, là, c'est pas la vie. T'es en train de t'enraciner, on dirait que t'es menottée, libère-toi.
Et pourquoi je sortirais ? Y a quoi de si particulier dehors ? Tout ce que je pourrais voir dehors, je le vois là-dedans, sur BFM ou les infos. J'en sais peut-être même plus que toi. Tu savais, toi, qu'ils avaient trouvé un nuage d'alcool dans l'espace ? Ben regarde un peu la télé.
Finalement, t'es vraiment bête comme tes voisins. J'ai l'impression d'être chez la vieille folle du deuxième étage, absalmodiée devant ta télévision en tricotant. T'es une idiote. Je te parle de vraie vie, moi, d'expérience, de vérité, de liberté même, de tout ce dont tu ne peux pas jouir parce que tu préfères le petit confort de ton ignorance. Tu es une imbécile, mais je persiste à croire que tu gardes en toi assez de bon sens pour m'entendre. Enlève ces menottes, désenracine-toi de ce canapé. Je ne viendrai pas une seconde fois. Il me reste encore 6 étages à convaincre, comme toi, de voir la lumière. Alors suis-moi.
Mais c'est toi qui es dans l'illusion quand tu me dis que la liberté m'attend dehors. Ma liberté à moi, c'est de choisir de rester ici avec mes bières, mon canapé et mon écran.
C'est ce que tu crois, mais ce que tu choisis, c'est la facilité ici. Le choix de cette société qui cherche à déterminer les hommes, à boire leurs paroles sans jamais les remettre en question. C'est pas la vraie Inès, celle qui ne se lève jamais pour se faire des pâtes et récupérer les commandes du livreur au bas de l'immeuble. La vraie Inès a soif de connaissance, de vérité et de liberté. Elle veut se faire sa propre image du monde. Mais pour la connaître, tu dois sortir de la caverne.
Mais vas-y, montre-moi un aperçu de ton monde s'il est si beau. Mais prends pas trop ton temps, il y a bientôt Touche pas à mon poste qui arrive. Rallume !
Non, et maintenant écoute-moi. Je ne peux pas te donner un aperçu du monde réel car la liberté, la connaissance s'acquiert dans l'expérience. Moi je suis seulement ici pour t'accompagner. pour t'aider, mais pour cela, il faut que le peu d'intelligence qui te reste voie dans quelle ignorance tu te trouves et que par ta personne seulement, tu décides de changer cela.
Tu me parles comme si je n'avais jamais mis un pied dehors, mais c'est justement parce que j'ai déjà entreaperçu l'horreur de l'extérieur que j'ai décidé de m'enfermer ici. Je ne trouverai pas de bonheur en sortant de chez moi.
Tu confonds confort et bonheur. Si tout ce qui fait partie de ton univers n'est que factice, comment veux-tu connaître le vrai bonheur qui ne te sera accessible que par la liberté ? Je ne te dis pas que cela sera facile, mais je t'en conjure. Arrête de te satisfaire de ces ombres qui dansent devant tes yeux et que tu confonds avec le monde.
Mais moi, qu'est-ce que j'y gagne à être libre ? Si ce n'est pas le bonheur, si ce n'est ni le confort ni la stabilité de la vie que je me suis construite ici, qu'est-ce que j'y gagne ?
Mais tu as tout à gagner, car tout vaut mieux que de vivre déterminé. Pour moi, être libre, c'est penser par soi-même, te donner la possibilité de douter de toutes ces bêtises véhiculées par la télévision et la société, et ainsi permettre à ton esprit de s'émanciper en quelque sorte. Car dont tout ce que tu pourras voir dans ta petite boîte magique n'est jamais qu'une suite d'opinions subjectives qui ne reflètent en aucun cas la vérité. Car si tu crois que ce que tu vois, rappelle-toi que de toi-même, tu ne sais rien.
Cela semble un peu illogique à mon sens. Pourquoi la valeur de la vérité serait-elle par exemple supérieure à ma sécurité, puisqu'elle peut l'entraver ?
Mais es-tu donc humaine ? Aurais-tu oublié ce qui fait ton essence ? C'est-à-dire ta capacité de penser toujours dans le but d'atteindre la vérité ? La liberté qui nous est propre ? La sécurité de l'ignorance est ce qui fait des êtres libres que nous sommes, des personnes au contraire déterminées et privées de libre arbitre qui ne peuvent par conséquent pas se connaître. Pour s'extraire de cela, il est nécessaire que tu cesses de confondre satisfaction de tes désirs et satisfaction de ta liberté. La seconde est celle qui saura orienter tes pensées et tes actions sur une voie bonne et digne.
Et si elle avait raison ? Je n'en veux pas de cette vie déterminée par les autres. Je ne veux pas passer le reste de cette vie sur ce canapé. Je ne veux plus de ce confort qui m'engloutit depuis si longtemps. Si ce que Sophia dit est vrai, je n'ai qu'à traverser cette épreuve, descendre les 3 étages qui me séparent de la liberté. Et cette liberté, ce mot sonne si bien à mon oreille. Il m'appelle, me crie de me libérer de ces liens qui me retiennent ici et de découvrir le monde tel qu'il est réellement. Sortir de la caverne semble être la seule solution qui s'offre à moi pour passer de la croyance au savoir, de l'illusion à la vérité, du déterminisme à la liberté. Alors oui, sans doute, devrais-je me lever, sortir et découvrir ce qu'il y a de bon et de mauvais dehors, et finalement être pleinement responsable de mes choix et de mes actions qui font de moi qui je suis. Oui, c'est là ma seule solution, quitter ces menottes et tendre mes bras vers cette tendre liberté qui n'attend que moi. C'est d'accord, je vais sortir.
Prenons l'ascenseur, vite.
Pourquoi ? On n'est qu'au 3e, je préfère descendre par les escaliers.
Non, vraiment, je t'assure qu'il vaut mieux pour toi que tu ne croises pas ces 2 vieilles commères. Pas aujourd'hui. Pas après t'avoir enfin convaincu de sortir. Fais-moi confiance, prenons l'ascenseur.
Non, et puis j'ai toujours préféré marcher. Ça me rend claustro ces machines. C'est pas toi qui vas me convaincre de rentrer là-dedans. Et puis, ce sont mes voisines, je les croise tout le temps.
Très bien, tu l'auras voulu. Maintenant, je te préviens, ce ne sont pas seulement 2 voisines de palier. Ce sont Régine, la stoïcienne, et Pyrrha, la pyrrhonienne. 2 esprits pervertis par des philosophies que tu ne dois pas connaître. Si tu veux sortir sans encombre, fais-moi confiance, prenons l'ascenseur.
Pfff, n'importe quoi. Elles ont toujours eu l'air très sympathiques. Tiens, je vais te les présenter.
Non, attends, je...
Régine, Pyrrha !
Tiens donc, ne serait-ce pas là la petite Inès du 3e ? Et accompagnée, je vois. Que fais-tu ici ? Voilà des jours que nous t'avons vu quitter ton appartement.
Tu es sûre qu'elle habite ici ?
Miladiou, Pyrrha, t'y mets pas, il est que 10h du matin. Et puis la chiotte, ça fait 2 ans qu'elle habite ici.
Mais l'essentiel est là. Je vais sortir. Enfin, je me sens prête à voir le monde tel qu'il est et à être libre.
Être libre ? Dehors ? Mais ta condition, ma chiotte, elle a toujours été dans ton appartement, sur le palier du dessus. Pourquoi chercherais-tu à y échapper ? Le cosmos, tu sais, n'a pas besoin qu'on le modifie par envie de liberté. Être libre, c'est pour toi rester sur ton canapé avec tes bières et ton écran. Descends si tu veux, mais sache que c'est le malheur qui t'attend. N'est-ce pas, Pyrrha, qu'il faut toujours désirer ce que l'on a ?
Peut-être, mais tu me fais douter, là. Si la vérité est un concept absurde inventé pour trouver un sens là où il n'y en a pas, pourquoi voudrais-tu descendre ?
On m'a dit que par la connaissance et le savoir, je pourrais atteindre la liberté et que tout vaut mieux que de vivre déterminé.
Tu es jeune. Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, tu sais. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas savoir ce qui se trouve vraiment à la sortie de l'immeuble. Tes belles opinions sur la liberté et la vérité ne sont, à ma vue, ni vraies ni fausses, mais vouloir les atteindre par la connaissance est un leurre. Même à travers l'expérience, tes sensations peuvent te tromper.
Pyrrha, tu doutes beaucoup trop, tu as toujours trop douté. Enfin, je suis d'accord avec toi pour dire que t'attacher à toutes ces réalités qui ne sont pas ta vraie nature te conduiront seulement vers le malheur. La liberté est intérieure. Elle me fait bien rire, Sophia, avec sa caverne. C'est elle qui cherche à pourrir ta sagesse, n'est-ce pas ?
Vous me faites douter. Si je ne peux être libre ni par la connaissance, ni en restant chez moi, alors comment ? Je suis perdue.
C'est pourtant si simple ! Accepte ta place dans l'univers, ce gros organisme dans lequel ta place est essentielle. C'est comme un orchestre, vois-tu ? Comment crois-tu que cela se passerait si le violoniste lâchait son instrument pour d'un coup se mettre au trombone, au nom de la liberté ?
Une cacophonie.
Exactement. Ta place, Inès, est chez toi, là où tu es libre de chercher à modifier ce qui dépend de toi, où tu peux pleinement apprécier ce qui est tien. Seulement, au moment où tu auras accepté ta nature déterminée, tu comprendras que ce que tu as et ce que tu es ne font qu'un.
Oui, petite, tous ces grands concepts qui te font envie, qui sait s'ils existent ? De toute façon, moi, la seule chose dont je suis sûre, c'est que, parce que je pense, j'existe. Et c'est là la seule liberté que tu puisses trouver. Tu n'as en aucun cas besoin de sortir pour être libre. Tout se passe là-dedans, dans ta petite tête. Alors autant rester bien au chaud dans la caverne.
Mon Dieu, Sophia avait raison. Si je reste avec vous, je vais finir par rentrer chez moi. Mais quelque chose me pousse, me dit que je dois sortir. Appeler ça raison ou conscience, je ne sais pas. Mais elle me pousse à ne plus me satisfaire de cette fausse liberté dont vous me parlez là et à voir ce qu'il y a de plus. Vous ne m'apportez que doutes et questionnements là où Sophia a su m'ouvrir aux découvertes et aux connaissances. Taisez-vous, vieille mégère, et laissez-nous descendre.
Sophia n'a fait que te proposer un idéal. Et tu l'as cru naïvement parce que tu es jeune et que la jeunesse a toujours soif d'espoir. Mais tu sais, cet espoir, aussi fort et enviable qu'il soit, est vain. Descends ces marches si tu le souhaites. Mais sache que c'est l'ordre d'un monde où chacun a sa place que tu fais trembler. Rappelle-toi que si tu crois libre les choses qui ne dépendent pas de toi, tu vivras en permanence troublé et affligé.
Qu'est-ce que de vivre troublé et affligé ? L'horreur. Inès, la quiétude de l'esprit vaut mieux que tout, mieux que tes concepts naïfs et arrêtés. Sois indifférente à ces concepts, car qui nous dit s'ils sont réels ? La quiétude de l'esprit est bien réelle, elle.
Me voilà de nouveau piégée dans mes réflexions. Je tergiverse autour de ces deux possibilités qui s'offrent à présent à moi. Accepter d'être déterminée et par conséquent ne chercher la liberté que dans ce qui dépend de moi, ou bien poursuivre ma descente de la caverne pour y atteindre le concept même de cette liberté. Moi qui cherchais si désespérément les arguments qui auraient pu contrer ceux de Sophia qui voulait me faire sortir, me voilà désormais à pencher pour son côté. Je ne peux accepter l'idée d'être déterminée, ni celle qui dit qu'il n'existe pas de vérité. C'est une vision qui m'enferme et m'empêche de me développer en tant qu'être responsable. Mais qui sait ? Peut-être ont-elles raison ? Je vais descendre, j'ai encore le temps de changer d'avis. Car tant que je ne suis pas sortie de la caverne, je peux toujours me retourner. Je vous salue et vous remercie, mesdames, mais je vais descendre. Et sachez que vos conseils et arguments ne sont pas passés par l'oreille d'une sourde.
Si telle est ta décision, vas-y, petite. Mais souviens-toi que si un malheur t'arrive, nous t'aurions prévenu.
Tu croiseras sans doute ma nièce, Émile, jeune et impertinente comme toi, qui traîne avec Électre du premier. Dis-lui qu'il n'est jamais trop tard pour qu'elle doute et qu'elle revienne.
Descendons, Sophia.
C'est la bonne décision, Inès. Partons.
Tu savais, toi, qu'ils avaient trouvé un nuage d'alcool dans l'espace ?
T'es sûre ?
Psst ! Inès ! Qui me parle ? Comment connaissez-vous mon prénom ?
Mon prénom est Électre. Je sors très peu de mon appartement. Depuis le jour où libre, j'ai dansé avec les morts. À partir de cet instant, j'étais aux yeux de tous les habitants de cet immeuble une impie, une chienne coupable. Mais je n'en suis pas morte. Les pompiers sont arrivés à temps. Enfin, depuis, j'accorde beaucoup d'importance aux jeunes gens comme toi, qui cherchent la liberté, qui ne se plient pas. J'ai toujours su que tu y arriverais. J'ai entendu des pas dans les escaliers. Ils étaient légers, déterminés. J'ai su que c'était toi.
Bon, très bien.
Pourquoi regardes-tu tes pieds ?
Je crois que vous m'intimidez. Ces cernes sous vos yeux, ce visage marqué par tant de souffrances, on peut lire la solitude dans votre regard. Si c'est cela, être libre, je ferais peut-être mieux d'écouter Régine et Pyrrha et de me contenter de ce confort qui m'allait finalement peut-être bien.
Ah, Pyrrha et Régine ont les mains sales. Leur philosophie se nourrissent de leur incapacité à chercher la liberté, le savoir. Alors elles doutent. Tu aurais vu leur visage lorsqu'elles criaient que la liberté que je prenais dans cette danse était une offense, un crime. Elles voulaient ma mort, la menace. Voilà leur seule défense contre la liberté des autres. Toi, tu fais partie des justes. Ta défense à toi, c'est ta liberté, rien d'autre. N'aie pas peur de mon allure. Mon enfer n'a pas été ma liberté, mais les autres. Et si toi, tu persistes à loger cette liberté en ton âme, personne ne pourra plus rien contre toi.
Es-tu sûre de cela ? Si je comprends bien, une fois que je serai libre, si j'y parviens...
Ne fais pas preuve de mauvaise foi, Inès. Tu es libre. Dès ta naissance, tu étais condamnée à être libre.
J'ai du mal à respirer. Je crois que je suis en train de faire une crise d'angoisse.
C'est bien. Respire. Respire et jouis de cette prise de conscience. Tu viens de franchir une étape cruciale. Tu viens de réaliser que ta liberté est absolue, qu'elle te permet de te créer, de te façonner en même temps qu'elle fait de même pour le monde entier. Sophia a raison. Le choix de ta vie passée était un choix qui ne t'appartenait pas, un choix d'esclave. Maintenant, jette-toi dans le monde, perds-toi en lui, tente de le modifier, d'agir sur lui. Il va t'en falloir du courage. Je vois que tu respires mieux, ça va ?
Oui, merci. C'est juste que maintenant, je me sens dénuée d'excuses. Je ne crois pas en Dieu et je n'ai plus mon poste de télé pour me dire quoi faire, quoi penser. Mais je ne douterai plus, c'est promis.
En effet, tu n'as plus que toi. Et ton essence sera celle que tu choisiras. Mais sois heureuse qu'il n'existe aucun Dieu pour la déterminer, qu'il n'existe aucun schéma préétabli pour la nature humaine. Tu sais, très peu de personnes sont prêtes à assumer leur liberté et par conséquent, être responsables d'eux-mêmes. Un homme libre dans une ville, c'est comme une brebis galeuse dans un troupeau. Un troupeau qui préfère être en mesure de projeter la responsabilité de leur situation sur quelqu'un ou quelque chose d'autre.
Je veux être cette brebis galeuse, mais je ne veux pas vivre en permanence avec ce sentiment d'angoisse et d'abandon. C'est un passage obligatoire. Il doit bien y avoir des solutions. Comment tu as fait, toi ?
Des solutions ? Je n'en ai jamais vraiment trouvé. Préfères-tu la situation dans laquelle tu te trouvais jusqu'à ce matin ?
Non, je n'y retournerai pas.
Voilà peut-être une solution. L'intelligence. La liberté, mais surtout le chemin pour l'atteindre, a apporté une lumière sur une grande part sombre dans ton ignorance. Et grâce à cette lumière, tu vas pouvoir te rendre compte que ton libre arbitre est certes une condamnation où tu connaîtras l'angoisse et peut-être même le désespoir. Mais c'est aussi et surtout la meilleure chose qui puisse t'arriver. Rends-toi compte. Rien ne s'est figé, tu n'es pas restée ignorante, lâche et bête une fois pour toutes.
Oui, je peux changer.
Tu peux t'élever de ta condition d'esclave.
Je n'ai aucune excuse.
Tu peux choisir tes propres valeurs morales.
Avec ce poids terrible sur mes épaules, je peux être digne d'être Inès. Et attends, qu'as-tu dit ? Je peux aussi choisir mes propres valeurs.
Ça parle de valeurs morales par ici ? Pour une fois que j'entends autre chose que la stupide anecdote de ce foutu nuage d'alcool. Bon, la liberté et la morale, ça me connaît. Pas vrai, Electre ?
Inès, voici une amie, Émile, et aussi la nièce de Pyrrha. Elle se sent toujours obligée de ramener sa science, mais elle sait beaucoup de choses, alors on l'excuse.
Ouais, bon alors, j'ai entendu dire que tu voulais sortir de la caverne ? Que tu voulais être libre, c'est ça, petite ?
Oui, en fait, j'ai toujours vécu dans...
Très bien, on s'en fout. Le principal, c'est que tu en sois sortie. Maintenant, je vais te dire ce que tu dois savoir. Renoncer à la liberté est incompatible avec la nature de l'homme. Ça tombe à pic, non ? T'en fais partie. Bon, maintenant, pourquoi le reste, c'est pas dans ta nature ? Car rester dans ton canapé serait renoncer à tes devoirs, détruire ton être moral. Tout ça, c'est rien que de la métaphysique. T'es humain, donc libre de t'inventer, donc libre de progresser. Mais ne te méprends pas. Suivre tes appétits de liberté à la lettre, c'est être esclave. C'est obéir à la propre loi. Cette loi, en aucun cas, ne doit découler de la volonté d'autrui. Bon voilà, une dernière chose. La vérité morale est l'élément unificateur de toute réalité. Les connaissances ne sont parfois que de fausses lumières, de simples projections de l'amour propre, si elles ne sont pas enracinées dans une certitude intérieure. Bon allez, je parle, mais il me reste toujours quelques confessions à écrire. Salut petite.
Excuse-la, elle est très directe, mais bien plus gentille qu'elle n'y paraît. Ne perdons pas plus de temps. Descends, ouvre tes bras à la liberté, et n'oublie pas qu'au bout de ce chemin, il y aura toujours un choix, un acte qui t'attendront. Va. Descends les dernières marches qui te séparent de la véritable liberté. Tu es jeune, jolie, avisée comme une vieillarde, affranchie de toutes les servitudes et de toutes les croyances, sans religion, libre pour tous les engagements. Va.
Me voilà au bas de l'immeuble, Sophia, si proche de la sortie de la caverne. Jamais encore je n'avais ressenti autant d'appréhension et d'excitation à l'idée de sortir d'ici. Pourtant, ce sont les mêmes rues, les mêmes trottoirs que j'ai piétinés toute ma vie. Mais mon regard est différent, il a évolué. Il a grandi et s'est ouvert à ce qu'est réellement le monde. J'ai si peur.
Inès, dis-toi que ces 3 étages que tu as descendus représentent le plus gros de ton travail. Tu as su entendre et prendre en compte dans ta décision les arguments de chacune des philosophies présentées par tes voisins, que ce soit la vision stoïcienne de Régine, pyrrhonienne de Pyrrha, existentialiste de Électre ou encore de Émile. Tu les as toutes considérées, et cela fait de toi un esprit libre. Tout ce qu'il te reste à faire est de sortir d'ici, de cette prison qui fut autrefois la tienne, et d'ouvrir grand tes bras pour attraper toutes les connaissances qui t'attendent à l'extérieur.
Oui, je vais sortir, je peux sortir, je dois sortir. J'y vais et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Douce liberté, me voilà finalement prête à t'accueillir comme il se doit.
Regarde, Régine, la voilà qui sort.
Elle ne sait pas ce qui l'attend.
Elle est finalement prête à être responsable.
Et à devenir une version plus achevée d'elle-même.
Elle possède l'âme de ceux qui vivent purement. Loin de toutes les ombres qui l'a hantée il y a une trentaine de minutes à peine. Inès est libre.
Je suis dehors. Comme c'est lumineux ici, je n'y vois rien. Mais voilà que mes yeux s'habituent au soleil et me permettent d'observer le vrai monde. Que c'est beau, que c'est vrai. Je renais dans cette divine nature qui ne semble exister que pour moi. Chaque mouvement que j'entreprends, chaque mot que je prononce marque le monde et lui signale ma présence, me permettant d'avoir enfin cette certitude. J'existe. Que j'étais sotte, piégée dans mon confort, de ne pas tenter d'ouvrir les yeux et de voir tout cela. Regarde, Inès, regarde ce dont tu es capable. Hier encore, jamais tu n'aurais pensé que tu pouvais être différente, que tu pouvais te lever de ton canapé, t'arracher à ta télévision et penser par toi-même. Je ne suis plus toi. Je suis une nouvelle Inès, celle qui n'est plus déterminée et qui ne l'avait jamais été. Je suis celle qui ne doute plus et consacre son temps à la recherche de la vérité. Je suis celle qui connaît l'angoisse et qui l'accepte pleinement si elle va de pair avec la liberté. Je suis maîtresse de mes choix, de mes actes et de leurs répercussions, seule déesse de mon esprit et de mon existence. Maudit sois-tu, Jupiter, toi qui par divers moyens as tenté de me dissuader de sortir et qui m'a fait croire qu'il n'y avait point d'autre vie que celle que j'avais 3 étages plus haut. Vois-moi qui cours, qui crie, qui vit. Je suis libre, libre, libre,
libre, libre, libre.
Inès !
Elle est morte.
L'est-elle vraiment ?
Elle l'est.
Et elle en est responsable.
Inès, tu es là, à mes pieds, morte pour la liberté, morte par la liberté. Je t'avais dit que cela ne serait point ta chaise que de la connaître. Mais tu l'as fait, et tu seras morte libre. Ton esprit, finalement détaché de tout ce qui aurait pu le corrompre, va rejoindre ce qui lui est apparenté, vers les concepts du monde des idées.
Tais-toi, jeune folle ! Ne vois-tu pas qu'elle est là, morte, à cause de toi, à cause de toutes tes idées farfelues qui ont déréglé l'ordre naturel des choses ? L'univers a remis en place ce qui était déréglé. Mais si elle m'avait écoutée, Inès serait restée sagement dans son appartement et rien de tout cela ne serait arrivé.
Régine, arrête ! Inès, plus que jamais, mérite le respect pour ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi comme toi et Pyrrha. Inès peut à présent être jugée comme une essence. Et à la vue des actes ayant constitué sa vie, elle doit être applaudie. Son moi auparavant néant a laissé place à une identité.
Les gens de ta race, ceux qui ne croient pas en la liberté, ces esprits pauvres meurent lentement. Ils meurent lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours le même chemin, il meurt lentement. Celui qui ne lit pas, celui qui ne veut pas savoir ni connaître, qui ne change jamais de repère. Aujourd'hui, Inès est morte. Mais elle est partie en chantant. Bon Dieu, vous ne voyez pas qu'elle est morte en chantant ? Vous n'entendez donc pas que sa voix monte encore ? Qu'elle traverse même les parois les plus rocheuses de la caverne, de ce monde pour crier que par le seul pouvoir d'un mot, il est possible de naître une seconde fois ? Inès était née afin de ne connaître rien d'autre que ce mot. Liberté, pour le nommer.
Liberté !
Vous écoutez Radio Philo.
Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, votre émission préférée pour les 9 à 99 ans. Avec nous, la philo, c'est mieux qu'un McDo. Aujourd'hui, une émission portée sur la liberté et toutes ses variantes en fonction de chacun. Nous sommes en compagnie de 5 chroniqueurs, avec chacun leur propre vision de la liberté. Maëlie, Luna, Diana, Célia et Lisa. Bonjour Maëlie, vous vous êtes retirée de la société pour vivre dans la nature. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ?
Alors, j'ai décidé de quitter la société et de plus en dépendre pour me consacrer à des plaisirs simples et naturels. Parce que pour moi, le fait de dépendre de la société, ça entrave ma liberté, car je trouve qu'on doit se conformer à l'idée selon laquelle l'argent fait le bonheur. Et donc, il nous entraîne dans un cercle vicieux de travailler pour consommer toujours et on n'est jamais satisfait.
D'accord, merci beaucoup Maëlie. Luna, bonjour. Alors pour vous, la liberté passe par la société de consommation ?
Oui, je trouve ça extrêmement futile ce qu'a dit ma collègue par ici, là, Maëlie. Okay. Pour moi, la liberté, c'est pouvoir user de tout ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe quel moment où on le désire. C'est comme un peu Caliclès. ce qu'il dit. Voilà. Faut désirer de tout et désirer et assouvir tous ses désirs. Pour moi, le dernier sac qui sort, si je le veux, ben, je le prends. Le dernier parfum qui sort, si je le veux, je le prends. Pour moi, je me sens pas bien, pas libre, pas, je me sens enfermée si je peux pas acheter, avoir ce que je veux, ce que je désire. Tout simplement.
Merci beaucoup. Alors maintenant, Diana, vous allez nous dresser le portrait de Michel Vaujour. Racontez-nous.
Alors bonjour, effectivement, Michel Vaujour a été l'homme le plus recherché de France, car il a été condamné à 95 années de prison pour des faits de banditisme et pour 6 évasions et 6 tentatives d'évasion. Il a été définitivement libéré en 2003, après avoir passé 27 ans derrière les barreaux, dont 17 ans en isolement. Pourtant, il affirme être libre et même plus heureux que des gens qui n'auraient pas fait 27 ans de prison. Il affirme aussi que c'est grâce à la méditation, au yoga et à l'amour qu'il a réussi à s'évader en quelque sorte, en tout cas spirituellement parlant. Je cite « La prison fait partie de mon chemin ».
Merci Diana. Alors Lisa, bonjour. Expliquez-nous votre vision de la liberté.
Eh bien, pour moi, la liberté, c'est de pouvoir affirmer ses droits, c'est-à-dire pouvoir manifester, enfin, la liberté d'expression, quoi, que ce soit dans l'art, dans la littérature, dans les films, dans toutes sortes de moyens pour, comment dire, pour affirmer notre liberté.
L'art, en gros.
Ouais, l'art.
Moi, je suis d'accord, hein.
Merci.
Bien, merci Lisa. Alors maintenant, nous allons passer à Célia qui va à son tour nous expliquer sa propre définition de la liberté.
Du coup, pour moi, la liberté, c'est être libre de ses mouvements, de ses pensées. C'est aussi apprendre à s'accepter et à s'aimer pour mieux aimer les autres. Je pense qu'être libre aussi, ça peut être des choses simples comme être en contact avec la nature, comme voir la mer par exemple, ou respirer, enfin, pouvoir respirer profondément. Je pense aussi que la liberté, c'est pouvoir faire des choix sans que ça nuise à autrui.
Bien, merci Célia et à tous les chroniqueurs et à bientôt pour une prochaine édition de Radio Philo.
À bientôt.
Merci.
Au revoir. À bientôt.
Radio Philo, c'est tellement rigolo.
Demain, un vent de liberté soufflera sur l'Est alors qu'une pluie de contraintes s'abattra sur le Nord. Du centre à la côte d'Azur, le soleil brillera grâce à un anticyclone d'autonomie. La Bourgogne et la Franche-Comté connaîtront quelques épisodes de brouillard déterminé. Bonne journée sur Radio Philo.